Chers amis des cellules, bonjour. Je salue tout particulièrement ceux qui ont rejoint les cellules pour le temps de l'Avent afin de découvrir ce qu'elles partageaient et comment elles fonctionnaient. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur l'évangile de dimanche prochain, le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Je vous lis le texte, nous sommes au chapitre 3 de l'évangile Saint-Luc, les versets 1 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Draconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Fin de l'évangile que nous entendrons dimanche prochain. Le texte commence par une énumération de personnages politiques. On parle des chefs romains, de l'empereur, du gouverneur Ponce Pilate, mais aussi des chefs politiques juifs, Hérode, Philippe, Lysanias, et enfin des chefs religieux avec le grand prêtre Anne et Caïphe. Cette exposition manifeste un monde déjà ordonné, déjà organisé, avec sa réflexion politique, sa réflexion religieuse. Et voilà que tout d'un coup, la parole de Dieu descend sur Jean, le fils de Zacharie. Au cœur d'un monde déjà organisé, voilà que surgit la parole de Dieu. Elle surgit sur Jean-Baptiste comme autrefois elle avait surgi sur le prophète Jérémie, le prophète de la Nouvelle Alliance. Et du coup, ce texte qui nous est donné dans le temps de l'Avent a un premier enjeu. Est-ce que je crois, moi, aujourd'hui, à cette irruption de la parole de Dieu? Parce que mon univers peut déjà être très bien organisé. J'ai mon travail, j'ai mes habitudes, les personnes que je rencontre, j'ai même une certaine organisation de ma vie religieuse. Est-ce que je crois que la parole de Dieu peut advenir pour apporter du nouveau, pour donner une nouvelle direction, pour bousculer peut-être ce qui avait été établi? Nous sommes parfois fatigués, lassés, et nous n'osons plus croire que la parole de Dieu peut survenir. Premier enjeu donc, croire que la parole de Dieu peut se manifester aujourd'hui, quand bien même mon petit monde semble déjà bien organisé, bien réglé, bien suffisant. Deuxième remarque, c'est que la parole de Dieu descend sur Jean-Baptiste dans le désert. Cette mention du désert n'est pas anodine. Le désert, en Israël, ça ne représente pas simplement un lieu aride parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il ne pleuvrait pas. Le désert, c'est d'abord l'endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Alors ça peut être une conséquence de l'aridité, mais tous les déserts ne sont pas des déserts pleinement arides. Il y a un désert parce que, justement, je ne suis pas perturbé par des mouvements incessants autour de moi, par un bruit incessant autour de moi. Et donc il y a la deuxième question, c'est y a-t-il un désert à aménager peut-être pour que j'entende cette parole de Dieu? Jean-Baptiste était parti au désert, peut-être ai-je moi aussi à aménager un petit désert dans ma vie afin de pouvoir entendre, recevoir cette parole de Dieu qui se manifeste. En effet, on se souvient de ce que disait le Seigneur par le prophète Osée, « Je conduirai mon peuple au désert, et là je parlerai à son cœur. » Il nous faut peut-être en ce temps d'avant aménager un petit désert pour que le Seigneur puisse parler à notre cœur. Aménager ce désert, cela peut se faire justement par la participation aux cellules, où l'on échange, où l'on écoute la parole de Dieu. Ça peut être profiter de ces groupes de partage de la parole de Dieu que nous organisons le dimanche à 15h. Ça peut être préserver un temps de prière chez soi, en allumant une bougie, en faisant silence. C'est peut-être sur la pause du déjeuner, faire le tour du pâté de maison, pour avoir le cœur recueilli et se tourner vers le Seigneur. Aménager un petit désert où l'on peut être en cœur à cœur avec le Seigneur et entendre sa parole qui se manifeste. Je voudrais rappeler que le surgissement de la parole de Dieu était une joie toute particulière en Israël. La voix prophétique s'était tue depuis le retour d'exil, et voilà qu'on manifeste avec Jean-Baptiste qu'elle réapparaît. Il y a une joie particulière à entendre la parole de Dieu, et il nous faut nous souvenir que nous aussi, par notre baptême, nous sommes faits prêtres, prophètes et rois, donc prophètes, donc faits pour entendre la manifestation de la parole de Dieu. Et cette parole descend sur Jean, fils de Zacharie, et il y a aussi un enseignement à travers ses noms Jean, cela signifie « Dieu fait grâce ». Et Zacharie, Dieu se souvient. Voilà que la parole de Dieu se manifeste sur celui qui dit par son nom « Dieu fait grâce », lui qui est le Fils de Dieu qui se souvient. En ce temps de l'Avent, Dieu veut nous faire connaître cette joie de goûter à la parole vivante de Dieu qui fait grâce, car il se souvient. La deuxième partie du texte assimile l'action et la parole de Jean-Baptiste à l'oracle d'Isaïe qui exhortait « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Et là, il y a une chose qui doit nous étonner, parce qu'on assimile l'action de Jean-Baptiste à l'exhortation d'Isaïe. Or, l'exhortation d'Isaïe disait de rendre droit le chemin du Seigneur. Mais l'action de Jean-Baptiste, c'est de proclamer un baptême de conversion pour le pardon des péchés, en vue du pardon des péchés. Nous avons donc un rapprochement entre le sentier de Dieu et la conversion et le pardon des péchés, notre conversion et la demande que nos péchés soient pardonnés. Préparer le chemin de Dieu, c'est que nous vivions la conversion, que nous demandions le pardon de nos péchés. Ce qui signifie que le chemin de Dieu pour le monde, c'est nous. Que nos vies, nous et nos vies, nous sommes le chemin que Dieu veut parcourir pour le monde. Dieu qui veut aller au monde veut passer par nous. C'est nos vies qui sont le sentier par lequel Dieu va au monde. Du coup, nous relisons un peu différemment notre rapport à l'oïkos, ce que dans les cellules paroissiales d'évangélisation on appelle l'oïkos, c'est-à-dire cette personne dans notre entourage vis-à-vis de laquelle nous allons manifester une attention, une amitié particulière, une intercession particulière pour l'amener à connaître à terme les cellules et puis la paroisse. À la lumière de cet évangile, l'oïkos n'est pas tant une personne que je choisis dans mon entourage que celui que le Seigneur me fait discerner en me disant « Je veux aller vers lui, je veux aller vers lui par toi, je veux qu'il commence à me connaître grâce à toi, fais-toi chemin pour moi vers lui. Ta prière pour lui, ton attention, ton amitié pour lui » sera le sentier par lequel je pourrai rejoindre et toucher son cœur. Renonce au péché, c'est-à-dire au refus d'aimer comme moi j'aime. Convertis-toi, que mon chemin vers lui à travers toi soit sans obstacle. Et le texte de l'Évangile, en reprenant l'oracle d'Isaïe, nous révèle en même temps une grâce. Assurément, Jean-Baptiste proclame un baptême de conversion en vue de la rémission des péchés, mais en reprenant l'oracle d'Isaïe, il annonce une grâce. Vous savez, ce sont ces versets où l'on dit « Tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline sera aplanie. » Lorsque dans l'Écriture nous sommes confrontés à des verbes au passif, il est toujours légitime de se demander si ce n'est pas un passif divin. C'est-à-dire, le verbe est mis au passif pour manifester que Dieu agit, que c'est Dieu l'acteur véritable. Et donc les ravins qui sont comblés évoquent une action de Dieu qui vient justement combler ces gouffres. Les montagnes qui sont aplanies évoquent l'action de Dieu qui vient aplanir les sommets. Cela signifie que le ravin, le gouffre de manque de confiance en moi, peut-être, qui m'empêche d'aller vers l'autre, le Seigneur saura le combler. Le Seigneur saura me donner l'élan et la force. La montagne, parfois de mon orgueil ou bien de ma certitude qu'on ne peut rien tirer de bon du cœur de l'autre, le Seigneur sait l'aplanir, le Seigneur sait l'abaisser. Le temps de l'Avent apparaît ainsi comme un temps où une grâce de conversion nous est donnée pour que nous puissions chacun être dans notre vie, par nos actions, par nos paroles, le sentier qui permet à Dieu de rejoindre ceux que nous rencontrons. Le texte de l'Évangile se termine par cette phrase « Et toute chair verra le salut de Dieu ». Toute chair, ça signifie tout homme. On vient d'affirmer ici la volonté universelle du Seigneur de porter le salut à toute chair, pas simplement à la chair juive, pas simplement à la chair de tel peuple. Toute chair verra le salut de Dieu. Et ce salut est caractérisé d'une jolie façon dans la Peshitta. La Peshitta, c'est la traduction syriaque de la Bible, qui a une leçon, une variante particulière pour cette phrase, et qui dit que toute chair verra la vie de Dieu. Le salut de Dieu, dans la traduction syriaque, est assimilé à la vie même de Dieu. Toute chair verra la vie de Dieu. Nous retrouvons là cette intuition très forte dont j'ai déjà parlé dans d'autres enseignements, que le salut, intimement, en fait, c'est de vivre comme Dieu. Et le Seigneur nous appelle en ce temps de l'Avent à nous convertir pour que notre vie devienne ce sentier où il peut rejoindre les autres, justement parce que notre vie est devenue semblable, notre façon d'aimer est devenue semblable à la façon d'aimer de Dieu. En nous voyant, ceux que nous rencontrons découvrent une image véritable et ressemblante de Dieu. Au terme de cet enseignement, retenons peut-être trois choses en particulier. La première, croire que la parole de Dieu, que la présence de Dieu peut surgir aujourd'hui dans ma vie, pourtant bien organisée, pourtant bien bordée. Mais je crois qu'aujourd'hui le Seigneur peut surgir comme il surgit autrefois avec Jean-Baptiste. La deuxième, c'est que le sentier que Dieu veut parcourir pour rejoindre le cœur des hommes, c'est notre vie. Notre vie est le chemin par lequel Dieu veut aller toucher le cœur des autres. La troisième, si nous croyons que Dieu veut faire de notre vie ce chemin pour aller toucher le cœur des autres, il nous donne aussi une grâce de conversion, une grâce pour écarter, transformer les obstacles de nos endurcissements qui barreraient le chemin. Je vous souhaite de bons échanges.